Julie Gacon, alors votre sujet ce matin aux enjeux internationaux, c'est la rentrée des élus républicains du Congrès américain sur fond de guerre commerciale avec la Chine.
Oui, c'était hier. Alors allaient-ils, ces élus, témoigner d'un ressentiment accumulé tout l'été quand, depuis leur lieu de vacances, ils entendaient Donald Trump annoncer de nouvelles taxes sur les produits chinois et donner de nouveaux coups de griffe au principe auquel ils tiennent tant, celui de la libre entreprise. La Chine, qui par ailleurs n'a pas manqué de réagir avec la même arme, des taxes, a porté plainte hier devant l'Organisation mondiale du commerce. Eh bien non, les élus républicains n'ont pas réagi. N'oublions pas que la présidentielle est dans un an. Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, spécialiste de politique américaine, chercheuse à l'IRIS. Alors chez les élus républicains, le libre-échange à tout prix, sauf avec la Chine.
Oui, on a tendance à penser que le Parti républicain et les élus et même les élus locaux du Parti républicain sont tous des fervents adhérents du libéralisme, de l'ultralibéralisme économique. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai pour la Chine. Il y a aux États-Unis un sentiment de nationalisme économique défensif vis-à-vis de la Chine, qui est considéré comme un État qui triche sur les règles du commerce international, qui est accusé de faire du pillage technologique, du transfert de technologie un peu forcé.
Constat partagé par tous d'ailleurs, ou accusation partagée par tous, démocrates, syndicalistes et républicains.
Oui, et au sein même des républicains, c'est intéressant parce que si les républicains sont beaucoup plus circonspects par rapport au fait que Trump ait voulu mettre en place des sanctions douanières contre l'Union européenne, par exemple contre la Chine, c'est plus compliqué. Et les présidents avant lui, Obama, avait aussi essayé de contrer la politique économique chinoise, de l'affaiblir dans la région de l'Asie et de défendre les intérêts américains, évidemment avec une autre stratégie discursive et en ne jouant pas sur le passage en force.
Ils doivent pourtant, ces élus républicains, avoir des échos de leurs électeurs, de ce que ces taxations successives finissent par leur coûter à eux. Des études, par exemple, du Congressional Budget Office, c'est un organisme non partisan du Parlement fédéral, prévoit que les tensions commerciales vont amputer de $580 par an le revenu disponible des ménages américains, et ça commence à se faire ressentir. Donc, qu'est-ce qu'ils leur répondent à ces électeurs et qu'est-ce qu'ils font remonter à Donald Trump ?
Oui, c'est très concret. Il y a une baisse actuelle et qui va s'accentuer sans doute très concrète, du pouvoir d'achat de la classe moyenne américaine. Parce que bon, $500 par an pour les gens qui sont très riches, ça passe inaperçu, mais pour la classe moyenne et notamment la petite classe moyenne qu'il va falloir aller séduire pour les élections dans un an, c'est très concret. Sachant que l'économie américaine, la croissance économique américaine, tient essentiellement sur la consommation. Donc il y a une inquiétude que évidemment les élus entendent dans leur circonscription, dans leur ville, dans leur État, et qui risque d'affaiblir la confiance qu'ils ont dans leurs élus, surtout s'ils votent à droite. Donc il y a une double inquiétude. Il y a une inquiétude sur un potentiel effet négatif sur la croissance économique, d'autant que d'autres indicateurs sont pas très bons. Le FMI le dit, le Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, le dit. Et puis sur le fait que ça risque de remettre en cause leur réélection pour ceux qui se représentent. Et puis,
parce qu'eux aussi vont remettre leur mandat en jeu l'année prochaine.
Voilà, dans un peu plus d'un an, il y a deux élections, si je puis dire, l'élection présidentielle. Et puis, on l'oublie parfois en France, mais il y a aussi des élections législatives. Et des élections locales. Pour un grand nombre d'entre eux, il s'agit pas aujourd'hui de s'opposer à Trump, même si le Parti républicain s'est quand même très peu opposé à Trump depuis 2016. De plus, il a obtenu une des grandes réformes qu'il espérait depuis longtemps, qui est une grande réforme fiscale à l'avantage des grandes entreprises et des plus aisés. Maintenant, il attendrait quand même, je crois, de la part du président en place, des mesures en faveur de la petite classe moyenne et de ce CEUX que Trump a appelé pendant sa campagne de 2015-2016 les oubliés de l'Amérique,
quel genre
qui n'ont pas fait l'élection, ce ne sont pas eux qui ont fait l'élection de Trump, ça reste quand même un électorat républicain traditionnel, mais dont il va avoir besoin de l'adhésion dans certains États, dans certains États clés industriels, où il a gagné de manière très... avec une étroite marge en 2016.
D'où la suggestion, font certains élus conservateurs aujourd'hui, de lancer une réforme fiscale, cette fois à la faveur des classes moyennes.
Oui, et de compenser, comme Trump l'a fait déjà, hein, pour les fermiers qui ont été pénalisés par les échanges...
des accords de libre-échange avec le Canada et le Mexique.
Oui, et avec la Chine, de le faire de manière plus vaste pour d'autres catégories de la population. On peut le considérer que ça serait une mesure clientéliste, mais quand même, il y a un ressentiment dans la population américaine à droite par rapport au fait qu'ils ont été un peu délaissés par le pouvoir politique sur le plan fiscal. Ils voient que les plus riches en bénéficient et que leur pouvoir d'achat à eux diminue et qu'ils ne sont pas forcément dans l'attention principale des autorités, même si l'adhésion à Trump sur le plan des valeurs, de l'identité, de l'immigration, de la défense de l'Amérique blanche, ça reste quand même quelque chose sur lequel Trump peut compter.
Et c'est ça qui fait qu'il reste ces élus conservateurs, malgré le fait que beaucoup sont quand même assez ahuris des sorties de leur imprévisible président. Pour l'instant, seul le député du Michigan, Justin Amash, a quitté le parti pour rejoindre le camp des indépendants cet été. C'est le seul à avoir vraiment tapé du poing sur la table et avoir pris cette décision ultime.
Oui, il y a une sorte de résignation. Ce n'est pas maintenant, à un an de l'élection, qu'ils vont s'opposer à Trump, certainement pas. Il y a une sorte de résignation, il y a une certaine peur aussi que s'ils s'opposent trop frontalement ou même s'ils aient des paroles par tweet ou dans une émission de télévision contre Trump, celui-ci, qui peut être très rancunier, ne fasse en retour des tweets un peu vengeurs, entre guillemets, et puis leur oppose, quand il le pourra, des candidats lors des primaires. Donc il risque de les mettre en difficulté. Sur le plan de la communication, il est quand même le plus fort.
Donc ils en sont là, ils sont juste dans le calcul pragmatique. Parce que certains quand même s'opposent, enfin ont pu témoigner en privé, paraît-il, de leur désapprobation des propos racistes tenus dernièrement, de sa position sur les armes à feu aussi pour certains, mais personne ne dit rien.
Alors, c'est intéressant sur les armes à feu parce que Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, qui est un vieux briscard hein, de la politique américaine, qui n'est pas né de la dernière pluie, a déclaré hier ou il y a quelques jours qu'il soutiendrait une législation pour réguler le port d'armes, à condition qu'il soit sûr que Trump la signe. Donc c'est une prudence vraiment très 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 grande, et ce alors que dans la population américaine, le sentiment qu'il faut réguler le port d'armes, non pas supprimer cette liberté-là, mais le réguler pour certains types de populations, grandit, en particulier chez les jeunes. Et il y a plusieurs catégories de populations et d'électeurs envers lesquelles les républicains doivent être quand même très attentifs. Les femmes diplômées, qui se sont détournées des républicains pour les dernières midterms en novembre 2018. La jeunesse, qui vote pas encore, qui n'a pas forcément encore l'âge de voter, mais qui est beaucoup plus libérale sur les questions de mœurs. Et puis les minorités ethniques, il va bien falloir avoir un discours un peu plus doux, un peu plus inclusif vis-à-vis des minorités ethniques pour qu'elles votent pour eux.
Marie-Cécile Nave, certains noms ont commencé à émerger de candidats à la primaire du Parti républicain pour la présidentielle l'année prochaine. Ce sont des républicains qui n'exercent plus de mandat politique depuis quelques années. Alors il n'y en a que deux pour l'instant, l'ancien gouverneur du Massachusetts Bill Weld et l'ancien député de l'Illinois Joe Walsh, qui d'ailleurs est un ancien du Tea Party. C'est intéressant, il dit qu'il reconnaît qu'il a lui-même contribué à créer Trump. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un seul poids lourd pour priver Donald Trump d'investiture ?
Non. Non, ça paraît peu probable, sauf énorme surprise. Mais on a déjà essayé d'envisager des énormes surprises qui seraient les conclusions du rapport Mueller, qui seraient certaines enquêtes sur les scandales sexuels auxquels il est mêlé, qui sont les conflits d'intérêts. Là aussi, il y a des enquêtes parlementaires. Pour l'instant, ils s'en sortent très bien. On voit mal Trump ne pas être le candidat du Parti républicain dans un an.
Sur les intellectuels conservateurs, même les penseurs de son camp reconnaissent qu'il y a absolument aucune profondeur intellectuelle chez Donald Trump, confère dans le Figaro l'entretien avec l'essayiste Rod Dreher. Est-ce qu'il a réussi au moins Donald Trump, à son insu, réveiller les dissidences intellectuelles, les débats au sein d'un même camp?
Je ne sais pas s'il y a aucune profondeur intellectuelle chez Trump. Je ne dirais pas forcément comme ça. Sinon, il serait
je reprends
pas...
les mots de Rod Dreher.
Il faut continuer de prendre Trump au sérieux. Et il y a quand même il y a une réflexion, il y a une stratégie qui est évidemment pas, qui s'appuie évidemment pas sur une tradition philosophique ou de la sociologie ou de la science politique américaine. Il a pas lu les grands penseurs, etc. Mais il s'appuie quand même sur un certain nombre d'idées collectives, d'inconscient collectif, de valeurs sur lesquelles une grande partie de la population est, à laquelle une grande partie de la population adhère, sur la défense des valeurs américaines, de l'Amérique blanche, patriarcale, fermée sur elle-même, etc., qu'on va retrouver d'ailleurs chez des théoriciens qui ont pu inspirer des présidents par le passé. Peut-être que cette stratégie va encore suffire l'année prochaine.
Merci beaucoup Marie-Cécile Nave d'avoir été avec nous. Merci. Ce matin. Trump, la revanche de l'homme blanc, c'est votre livre paru aux éditions Textuelles. Merci à vous.